Lettre S.
When you come near, my eyes are glued. You've got control of me, it sure ain't hard to see. I'm just a fool.
Salut à tous, c'est Sweet Home Chicago. Et oui, on est. Oui, c'est pas l'émission de rentrée, tout à fait, puisque vous étiez peut-être là il y a 15 jours pour la précédente. Mais là, en ce samedi 6 septembre, c'est bel et bien la rentrée pour un petit peu tout le monde maintenant. Avec un nouveau disque coup de cœur du mois pour septembre 2014, The Robert Cray Band, l'album In My Soul, dont on vient d'entendre la première plage. You Move Me, l'invité du jour, ça sera Bernard Selam, mais ça sera dès la première heure de ce numéro de Sweet Home Chicago. Bernard Selam, bien sûr, leader du groupe AWEC, dont on va écouter quelques extraits de la discographie, pas forcément les tout premiers albums que je ne possède pas, mais au moins tout ce qui est sorti depuis 2001, depuis Barbershop. Et puis on va s'entretenir avec Bernard de ce bouquin et DVD qui s'appelle 20 ans de blues, puisque AWEC fête cette année, en 2014, les 20 ans du groupe, les 20 ans d'existence de ce groupe toulousain, avec les quatre compères dont on va s'entretenir tout à l'heure avec Bernard Selam. Voici un extrait de la discographie, c'est leur dernier album en date, il date de 2012, Rich and Famous, enregistré aux États-Unis comme les deux précédents d'ailleurs, avec Bernard Selam en auteur, compositeur, en chanteur et en guitariste. Avec le titre Gone Too Long, extrait de la discographie d'Awake, on va écouter du Awake dans cette première heure du 943e Sweet Home Chicago, un titre écrit par Bernard Selam qu'on aura en interview tout à l'heure, extrait de Rich and Famous. Le précédent s'appelait It's Rolling avec Magic Knight. Awake dans la radio.
give you one more dime. But if I see you one more time, it's gonna spoil that magic night. Baby, you look so beautiful tonight. Baby, I want you to be my wife. No matter what the people say, we spent some good time in your bed. I could find a girl I love for one more night. I could find a girl among the city lights. Don't wanna be your prisoner, 'cause I love you, I can't deny.
Voilà, petit retour sur la discographie d'Awake avec It's Rolling, leur avant-dernier album. On va revenir sur le précédent, donc les trois albums qu'ils ont enregistrés aux États-Unis. Juste après, on aura Bernard Selam en interview en direct dans Sweet Home Chicago, extrait de Burning Wire on South Lam, enregistré en 2007 chez Mosaïque à l'époque. Voici Easy Money.
Does it mean? Don't need to work, just wait and see. Look for a jerk, not a man like me.
Easy money,
I wanna be your friend. 'Cause it's a greedy world I'm living in. It's driving me insane.
Voilà, avec Easy Money, également avec Bernard Selam au téléphone. Salut Bernard. Ah, si ça marchait, ce serait bien, ça serait génial. Miracle de la technique, voilà, je sais pas ce qui se passe. Voilà, on a normalement le téléphone, on va essayer de rappeler, c'est pas grave. On va remettre un petit peu de musique. Voilà, normalement la liaison est rétablie avec Toulouse. Bernard, bonjour. Ah, ben alors ça serait génial si ça fonctionnait bien. Ben non, la liaison n'est toujours pas établie. Je ne sais pas ce qui se passe. Allô, Bernard. Bon, petit problème technique, on va essayer de résoudre ça. Désolé. Voilà, on va refaire un essai. Bernard, tu m'entends ?
Oui, je t'entends, oui.
Ah bah écoute, ça passe. Voilà, il y a un petit malin qui avait dû appuyer sur un mauvais bouton avant que j'arrive. Et puis, comme tu sais, Radio 666, c'est une radio qui a des gros moyens. Donc, le disjockey, il fait tout ici. Comment vas-tu, Bernard ?
Eh bah, tout va bien. Écoute, bon. Voilà, on est un petit peu au repos juste pour un week-end, hein, parce que nous, on ne s'arrête jamais.
Ouais.
Mais donc, Awek sera sur la route bientôt, encore une fois.
Awek, un groupe toulousain qui a 20 ans, putain, 20 ans en 2014, création en 1994. Il n'y a pas beaucoup de groupes français qui peuvent s'enorgueillir d'une existence de 20 ans avec quasiment pas de changement de personnel, quoi, on va dire.
Bah non, il n'y a pas eu de changement de personnel à part la rentrée de Stéphane Bertolino.
À mi-parcours, j'ai envie de dire, non?
Par contre?
À mi-parcours, la rentrée de Stéphane, non? C'est ça?
Oui, à mi-parcours, ouais, voilà. Juste au milieu, il y a à peu près 10 ans.
Ouais.
Un peu plus de 10 ans maintenant. Et voilà, non, sinon c'est toujours les mêmes hein, depuis le début. Et c'est vrai que c'est assez rare dans le monde du blues et même dans le monde de la musique en général. 20 ans, c'est pas toujours évident à tenir, quoi.
Alors, qu'est-ce qui t'a décidé avec tes compères à sortir ce bouquin et ce DVD 20 ans de blues à WEC?
Bon, on avait envie de faire autre chose qu'un CD. On a fait déjà 8 CD. Donc on avait un petit peu, on a un peu cogité tout ça, on s'est dit comment on peut marquer différemment 20 ans d'histoire commune.
Ouais.
Et puis c'est vrai que, bon, même si on n'est pas Keith Richard ou je sais pas trop qui comme ça maintenant, ou Howlin' Wolf, on a quand même vécu des choses sympathiques et puis des petites galères. Alors on s'est dit, ça serait rigolo de faire partager ça un peu à tous les gens qui nous suivent depuis 20 ans, ça serait aussi donner un coup de chapeau à tous ceux qui nous ont filé un coup de main, les festivals, les radios, les magazines, et puis surtout le public, donc en leur racontant notre histoire avec quelques déboires et puis quelques moments de gloire.
Oui, oui, oui. Alors un bouquin qui est sorti apparemment au mois de juillet, c'est ça?
Oui, en fait, disons qu'on a commencé à le vendre sous le manteau au mois de juillet, mais voilà, c'est dans le dernier trimestre de 2014 qu'il va se vendre officiellement.
D'accord.
Donc pour l'instant, il est en vente uniquement en concert et en nous écrivant sur le site awakeblues.com.
Voilà, awakeblues.com. Et puis de toute façon, on retrouve également toutes les dates du groupe. Si vous voulez vous procurer, vous qui êtes fan de Awake, il vous faut absolument ce bouquin et ce DVD. Alors, j'ai envie de dire, vous avez sollicité pas mal de gens autour de vous. Il y a des petits encarts un peu partout, des musiciens, des chroniqueurs, des programmateurs, des tour managers. Enfin, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont tourné autour du groupe de Awake, ou à moins que ce soit Awake qui ait tourné autour d'eux au fil de toutes ces années, avec des témoignages, avec des illustrations, avec des anecdotes, c'est très 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 bien foutu d'abord au niveau de la maquette, moi je trouve, hein. Et puis voilà, c'est, on s'ennuie pas une seconde à lire ce livre.
Bah écoute, oui, ça représentait pas mal de boulot, parce que faire un disque, on sait, même si c'est difficile de faire un disque, on sait faire. Écrire, on sait pas faire. Il n'y a aucun d'entre nous qui peut se prétendre musicien, j'ai fait un mot là-dessus, pas mal.
Écrivain, tu voulais dire.
Ouais, pour des bluesman, c'est normal. Ouais, écrivain, ouais. Bon, disons que, et on y a pris goût, hein, finalement.
Oui.
On y a pris goût parce que c'est génial de raconter son histoire, de revenir un peu en arrière. Mais heureusement, on a eu un gros coup de main quand même, hein, sur les fautes d'orthographe et sur le reste.
Oui, mais j'ai envie de dire, c'est pas l'apanage des musiciens de faire des fautes d'orthographe. Je crois que même les écrivains en font, il n'y a pas de souci. Ce que j'ai envie de dire, c'est que vous avez été aidé aussi par un ami commun qui s'appelle Francis Ratto, président du collectif des Radio Blues, un petit peu aussi.
Et bien voilà, c'est lui dont je voulais parler, tu vois.
Voilà.
Francis Ratto, donc, qui nous a aidé à mettre ça en forme.
Oui.
Bon, il a corrigé un petit peu tout ça, hein, mais on va dire qu'en gros, il a laissé que ça dans son jus, dans la mesure où il a voulu que ça soit, qu'on nous reconnaisse à travers toutes ces anecdotes, les uns les autres, à savoir que il a surtout classé tout ça, pas forcément dans un ordre chronologique, mais il a essayé de trouver une logique, et voilà, et après notre graphiste, il a collé les photos derrière. Donc en fait, c'était un peu un Francis, c'était le supervisor, comme on dit en anglais.
Voilà.
Et c'est lui qui a ordonné tout ça et qui a mis un peu d'ordre, et même beaucoup des fois. Voilà.
Alors, évidemment, on pourrait s'attendre, pour les gens qui n'ont pas ouvert le livre encore, à un livre un petit peu thématique, avec une biographie, avec les albums les uns après les autres. Et puis, finalement, on s'aperçoit qu'au niveau des titres qui ont émaillé toute la discographie d'Awake, il y a, je ne sais pas comment vous avez fait, ça colle à chaque fois le titre. Par exemple, je prends Allons bouger, je prends Easy Money, tiens, qu'on a passé tout à l'heure, Man of Many Words, etc. Ça correspond à des titres de paragraphes. Qu'est-ce que ça a été comme travail éditorial par rapport à ça?
Bah ça, c'était le travail de Francis.
Ouais.
C'est lui qui a trouvé, qui s'est dit, tiens, je vais aller puiser dans les titres d'Awake. Bon, il y en a pas mal, hein, parce qu'on a fait 8 disques. donc il y a une centaine de titres, on va dire. Donc c'est lui qui a été chercher le titre le plus représentatif de ce qu'on racontait. Mmh. Voilà. Et alors pour nos auditeurs, ce que je peux expliquer comment c'est écrit. En fait, c'est quatre personnes, donc les quatre membres d'AWEC, Olivier, Joël, Stéphane et moi, qui écrivons des petits paragraphes. Alors ça occupe au maximum une page entière, au minimum trois lignes, mmh. et on raconte raconte chacun une petite anecdote. Des fois, on raconte la même avec un point de vue différent. Oui. Parce que le jour-là, on n'était peut-être pas lunés de la même façon. Et puis aussi parce qu'on se souvient de choses différentes hein, avec le temps. 20 ans, c'est long. Hein. On ne se rend pas compte comme ça, mais oui, il y a 20 ans, je ne me souviens pas de tout, moi.
C'est une génération. Et puis voilà, donc c'est assez original. En plus, il n'y a pas le nom forcément des musiciens. Il y a une petite photo. On sait de qui il s'agit, on sait qui parle. Et puis ça va, tu l'as dit, d'une page entière jusqu'à, par exemple, tiens, une anecdote que je pourrais lire. Un moment étonnant. En plus, Jimmy Vaughan est un gars très sympa. Voilà, ça c'est une phrase lapidaire qui veut bien dire ce qu'elle veut dire. Et puis, il y a d'autres choses. Je pourrais en lire un petit passage, si tu veux.
Ah ben bien sûr, avec plaisir.
La veille de notre départ pour Austin, j'ai joué en duo. Là, c'est Stéphane qui parle. Stéphane Bertolino, l'harmoniciste. J'ai joué en duo dans un bar dans la montagne noire, à peu près un peu plus d'une heure de Toulouse. Après le concert, le patron m'a offert une poire William que je n'ai pas pu refuser. En rentrant chez moi, je tombe sur un contrôle de police. Après avoir soufflé dans le ballon, il apparaissait que j'avais bu un verre de trop. Les flics m'ont emmené au commissariat alors que j'avais un avion à prendre à 6h du matin. J'ai insisté en leur disant que je partais pour enregistrer un disque au Texas. Les flics rigolaient, pensant que je les baratinais. Pour leur prouver que je disais la vérité et me sortir d'affaire, j'essayais d'appeler tous les membres du groupe. On était en plein milieu de la nuit, personne ne répondait. C'est Fabrice, pas encore couché, avec qui j'ai joué quelques heures plus tôt, qui est venu me chercher. Le plus drôle dans l'histoire, c'est que j'étais finalement le premier à l'aéroport. Le plus ponctuel de tous les musiciens, Stéphane, c'est ça, Bernard?
C'est devenu plus ponctuel parce voilà. Que c'est vrai que c'est celui qui nous a, quand il est rentré dans le groupe, la première fois qu'il devait venir jouer avec nous, il a fait la fête aussi ce jour-là. Bon, maintenant, il s'est un peu assagi, le Stéphane. Il a fait la fête et il ne s'est pas réveillé parce que c'est surtout un gros dormeur. Mmh. Et il nous a planté. Donc, on s'est dit, tiens, ça commence très mal avec ce gars-là. Ça n'a pas duré longtemps. Mmh. Et puis, il a tenté sa deuxième chance. Et depuis, c'est lui toujours le premier. C'est lui qui est le plus à l'heure. Bon, ceci dit, on est assez ponctuel dans AWEC. Ça fait un peu notre réputation et surtout, c'est beaucoup plus relax à vivre quand on est à l'heure quelque part.
Oui, ben, être à l'heure, ça permet de prendre son temps derrière aussi, c'est ça qui est bien.
Et c'est surtout ça, voilà, et de des fois même de faire des bons concerts.
Parfois, oui, c'est possible. Il y a un autre morceau de bravoure là, que je voudrais citer également, si tu permets, Bernard. Voilà, c'est moins drôle, mais c'est plus... on avait plus ou moins... Alors, vous parlez des Mountain Men hein, que vous avez rencontré, puis à qui vous avez partagé l'International Blues Challenge de Memphis. Alors ça, c'est des sacrés souvenirs. On avait plus ou moins entendu parler des Mountain Men, mais ce jour de février 2008, on allait réellement faire connaissance avec ces gars-là dans l'aéroport d'Amsterdam. Ils arrivaient de Grenoble et nous de Toulouse. De là, on embarquait ensemble pour Memphis, dans le cadre de l'IBC, eux dans la catégorie acoustique, nous dans l'électrique. On a passé 5 jours à se marrer, à profiter au maximum de ce séjour aux USA. Ils étaient là pour nous supporter dans les phases qualificatives et réciproquement. Cette fois-là, AWEC s'est retrouvé en finale à l'Orpheum Theater, la salle mythique de Memphis, devant 3000 personnes, un grand moment. On a eu la chance d'y retourner 3 ans après, toujours ensemble et rebelote, la même en mieux, Stéphane remportant le prix du meilleur harmoniciste et pour finir en apothéose, une messe gospel en plein quartier noir où Matt Magistral nous a fait pleurer tous. On se régale à chaque fois qu'on se retrouve. Voilà, je ne sais pas si Matt a déjà lu ça. En tout cas, ça doit faire plaisir. Et après, à chaque fois, il y a des photos qui collent vraiment. Bernard, ça fourmille d'anecdotes. Comment est-ce que vous y êtes pris pour tout sélectionner, puis pour essayer de vous rappeler de tout ce qui est le plus marquant dans l'histoire du groupe, finalement?
Bah, ça a pris quasiment un an à écrire ça, hein, ouais. Parce que bon, déjà, comme je t'ai expliqué, nous prendre la plume, c'est pas vraiment notre job, et puis c'est difficile. Ça a été un exercice. Mais en fait, c'est comme composer, c'est-à-dire que quand tu te mets à écrire, les souvenirs ils reviennent de plus en plus, de plus en plus nombreux. Et puis vraiment, alors je suis sûr qu'il y a certains trucs super qui sont passés à la trappe dont on se souviendra peut-être jamais. Mais en tout cas, bon voilà, on a réussi à écrire notre histoire en 20 ans. 20 ans sur la route, 20 ans ensemble. C'est ça le plus important, c'est 20 ans ensemble à faire de la musique sans quasiment s'arrêter.
Est-ce que l'écriture, c'est un acte thérapeutique également ?
Ah ben, de toute façon, bon, moi je suis mal placé pour le dire, parce que encore une fois, c'est la première fois que j'écris sérieusement.
Oui, mais attends, Bernard, tu composes quand même une majorité de titres du répertoire d'Awek, composé en anglais, composé en français, et puis écrire, c'est un petit peu la même chose, non?
Oui, c'est un peu pareil, sauf que dans les chansons, on n'est pas du tout dans la même forme. Hein. On peut raconter des choses beaucoup plus ou beaucoup plus profondes ou beaucoup plus superficielles.
Ouais.
On n'est pas obligé de raconter une histoire quand on écrit une chanson. Par contre, oui, ça a été thérapeutique, je pense, pour le groupe de faire un stop tous ensemble et de se retourner, de regarder le parcours qu'on avait fait ensemble, parce que bon, bah, les concerts, les années avancent, souvent ça se précipite, ça va très très vite, on prend pas le temps de regarder en arrière.
Ouais.
Et surtout quand on fait une carrière tout seul, qu'on est un peu chacun de son côté, là on a été quatre pendant 20 ans, donc ça nous a permis peut-être de faire le point sur certaines choses et surtout de réaliser qu'on avait du bol.
Oui,
on a de la chance d'avoir pu continuer ensemble, de s'être donné aussi les moyens, hein, c'est pas que de la chance, mais c'est aussi beaucoup de chance par rapport à beaucoup de gens qui ont dû s'arrêter pour plein de raisons. Voilà.
Bernard, j'ai envie de dire, puisqu'on revient en arrière, gros coup de projecteur sur les 20 ans d'existence du groupe Awek, si on revient en 1994, il y avait qui en blues français, à part Awek?
Ah ben, nous, on n'était pas trop au courant parce que, en fait, voilà, on était complètement isolés. Je peux te dire qu'à Toulouse, ça n'a jamais été vraiment une ville de blues pure et dure.
Ouais.
Il y a plein de gens qui tournaient autour du blues, à part les Manish Boys, qui étaient en gros le seul groupe de blues qui existait à l'époque. Et encore, Joël Ferron, c'était le bassiste, donc il est parti des Manish Boys pour fonder Awek.
Mmh, mmh.
Donc, après, il y avait fin des années 80, il y avait un groupe qui s'appelait Black and Blue. Bon, il y avait finalement peu de gens. Et alors, en France, on connaissait encore personne parce qu'il n'y avait pas encore un réseau, il n'y avait pas vraiment Internet qui était autant développé en 94 qu'aujourd'hui.
Bah, je crois, oui, que c'était vraiment les balbutiements. Il n'y avait pas de réseau blues à cette époque-là.
Voilà.
Je crois que la chaîne du blues remonte à 97 ou 18, tu vois.
Voilà. Donc, et en fait, je pense qu'on a explosé. Enfin, Awek a démarré au moment où il y a eu le blues boom français, quoi. Voilà. Après, il y avait des gens qui avaient déjà fait leurs preuves, comme Benoît Blueboy ou Patrick Verbeek ou des gens comme ça, ou Paul Personne.
Il y avait Bill de Rem aussi au début des années 80.
Il y avait Bill de Rem aussi. Mm. Bon, après ça, c'est des gens qui fricotaient un peu plus avec la chanson.
Ouais.
Mais bon, ils étaient quand même là. Mais à part eux, bon voilà, nous on avait un groupe qu'on aimait beaucoup et qui existe toujours d'ailleurs, puisqu'ils sont un peu reformés, on va dire. C'est Douvedou,
oui.
Les Bretons.
Bah oui, ils ont fait un concert le mois dernier. J'avais eu Mitocro au téléphone il n'y a pas très longtemps et ils nous avaient parlé de la reformation avec un concert dans les Landes, je crois me souvenir.
Ouais, ben ils retournent et en fait nous ils nous ont beaucoup influencés. Quand on les a vus, on s'est dit on veut être comme eux, quoi. On veut faire le même style de musique, ou en tout cas on veut être dans la même veine. On veut avoir un look, on veut avoir une dégaine. On ressemble à rien, nous. Nos premiers concerts, on était habillés en jean et en basket, hein. Et on a vu des gars qui étaient lookés, qui avaient un style, qui connaissaient le blues vachement bien, qui connaissaient les dernières tendances, les derniers guitaristes un peu à la mode, qui écoutaient des trucs que nous on soupçonnait même pas, des vieux trucs, qui étaient vraiment immergés dans le blues, dans le roots, et c'était et nous on s'est dit waouh, ces gars-là ils ont une classe terrible, et ça nous a donné vraiment très très envie de suivre un peu ce qu'ils avaient fait, quoi. Après il y avait d'autres groupes, hein, mais bon, après on était peut-être moins influencés, puis tout d'un coup très vite on a rencontré plein de gens, hein, parce que quand on a commencé à faire des festivals à droite à gauche, ben forcément on était en première partie de plein de gens super, et c'était C'est là qu'on a commencé un petit peu à s'imposer en France.
On peut citer Fly in the Tox également, je pense.
Fly in the Tox, c'est bon. Ce qu'il y a, c'est que je les mettrai pas franchement dans une catégorie blues, parce que en fait, Fly in the Tox, ouais, ils faisaient une espèce de soul rock, rock soul, je sais pas, ou du rock, ils faisaient quelques morceaux de blues, très peu.
Ouais.
Mais bon, c'était des stars, et c'est toujours des gens qui sont connus à Toulouse, même s'ils n'existent plus depuis plus de 20 ans. Mais c'était des stars. Pour nous aussi, c'était un modèle de carrière. Et en plus, c'était des copains. Moi, je sais que Michel Lorenzo, le batteur de Fly and the Tox, c'est un des premiers qui m'a vu chanter. Parce qu'au départ, moi, j'étais que guitariste, j'étais pas franchement chanteur.
Ah ouais.
Et j'ai voulu me mettre au chant. Et c'est un des premiers qui m'a vu chanter. Il m'a dit, t'as un truc, Bernard, il faut vraiment que t'approfondisses ça. Et donc, les Fly and the Tox à Toulouse, c'est un peu les parrains de dizaines de groupes à Toulouse. Ceux qui nous ont montré la voie, voilà. Mais ils sont pas à fond dans le blues comme nous on peut l'être aujourd'hui ou comme Doudou l'était à l'époque.
Ça m'amène directement, Bernard, à une des anecdotes, enfin un des paragraphes là qui émaille ce livre Awek 20 ans de blues. Tu dis, toi Bernard, à l'origine Awek était un groupe de pub rock ou pub blues, on jouait essentiellement dans des bars. Un jour une bagarre a éclaté pendant un de nos sets, dans ce cas la règle est de ne pas s'arrêter. On a entamé Cowboy, un morceau plutôt bluegrass qui illustrait bien ce genre de situation et aurait pu figurer dans la bande son de Benny Hill. Moi en lisant ça j'ai pensé aux Blues Brothers aussi, tu vois.
C'est complètement ça. Et les Blues Brothers, des fois on se dit c'est à peine exagéré. Quoi.
Non, mais c'est clair, il y a des choses. John Landis est allé observer les groupes, les musiciens à Chicago, et puis il en a retiré la quintessence. Et, bon, voilà, on ne va pas parler du film Les Blues Brothers pendant une heure, mais c'est un des films, j'ai envie de dire, en 1980, voilà, qui a dû rentrer dans l'imaginaire collectif de pas mal de musiciens de nos générations, j'allais dire.
Ah bah complètement, moi c'était ça m'a aidé, les Blues Brothers, ça m'a aidé à revenir à la soul d'abord, parce que c'est quand même un groupe de soul avant tout, les Blues Brothers,
Ouais. Malgré
leur nom, puisqu'ils font beaucoup de morceaux issus du répertoire de Stax.
Et puis c'est très cuivré aussi, surtout.
Voilà, ouais. et puis bon, il y a quelques blues bien sûr, mais ça a été pour moi une influence énorme. Ils ont permis surtout au grand public de redécouvrir cette musique là quoi.
Mais il y a plein de gens qui pensent que Sweet Home Chicago c'est Blues Brothers qui l'ont créé quoi. C'est...
Et oui, voilà.
Si je continue sur ce que tu dis, l'histoire de la bagarre là dans le pub, je revois encore Pascal le patron sauter par-dessus le bar pour aller en découdre avec les fauteurs de troubles. Quelques années plus tard, ce même Pascal est devenu notre manager. Il nous a demandé de nous saper pour la scène. Fini le jean et les baskets, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est lui qui nous a ouvert la voie des premiers festivals comme Bagnols Blues ou Cognac Blues Passion. Il voyait en nous le potentiel à exploiter. Il est toujours avec vous, Pascal ?
Non, Pascal, il a pas pu continuer malheureusement, bon, pour plein de raisons, mais surtout pour des raisons financières, parce que on n'était pas assez connus et le blues c'est difficile d'avoir qu'un seul manager, donc d'avoir nous une cinquième personne, nous le cinquième élément, on aimerait, ça peut être un manager bien sûr, ça peut être un sonorisateur, ça peut être plein de gens, ça peut être un deuxième guitariste ou un pianiste, j'en sais rien, mais bon, on peut toujours pas vraiment, bon, puis ça fonctionne à quatre, donc il y a un dicton en anglais qui dit, if it works, I mean, if it's not broken, don't fix it, si c'est pas cassé, ne cherche pas à le réparer, quoi.
Tant que ça marche encore un peu, il faut en profiter, c'est vrai.
Voilà, s'il n'y a rien à réparer, il faut rien réparer, il faut rien changer, quoi. Ouais, donc, bon, voilà, nous, après, on a su évoluer. Quand on a su qu'il fallait rentrer un quatrième élément, mais bon, Stéphane est arrivé voilà, comme il fallait au bon moment. Puis, bon, de toute façon, on voulait absolument un harmoniciste, puisqu'on avait joué sur nos disques avec Youssef et Manna.
Oui, exact.
Et on voulait retrouver ce qu'on avait sur disque, qu'on n'arrivait pas toujours à faire sur scène.
Et alors justement, voilà, est-ce qu'on peut se dire que l'arrivée de Stéphane a changé le son du groupe, ou est-ce que c'est parce que le groupe avait envie de changer de son que l'harmoniciste titulaire est arrivé définitivement ?
Bah, je crois que tu as bien compris, c'est les deux.
Ouais, d'accord.
C'est les deux, c'est-à-dire que bon, c'est vrai que bon, bah, un harmoniciste en plus, bon, ça fait un son différent, hein, c'est sûr. Mais en même temps, nous, on pouvait pas se permettre d'évoluer comme on a pu évoluer quand Stéphane est arrivé. Sans harmoniciste et sans un bon harmoniciste qui connaissait bien ce qui pour nous est l'essentiel de la musique, à savoir le Chicago Blues des années 50, de Muddy Waters, Jimmy Rogers, Little Walter, bien sûr, au niveau de l'armo. Mmh. Et donc, c'est vers ce son-là qu'on voulait aller, parce qu'on était vachement plus rock avant. On faisait des choses plus rock. Moi, j'aime bien toujours écouter du blues rock. Hein. Je me régale. Hein. Quand j'écoute Fred Chapelier, je me régale.
Oui.
Bon, après, maintenant, je suis plus capable de le faire. mais bon, voilà, après. Mais bon, ce qu'on voulait faire depuis le début, c'était ça.
C'était du blues, quoi.
Tout à l'heure. Mmh. Ouais. On était un groupe de pub rock, donc il fallait faire. On jouait devant des gens qui connaissaient pas le blues hein, pendant des années. On a joué devant des gens qui connaissaient rien. Donc quand on balançait Lady on Sally de Clapton ou un morceau de Ray Charles, on était sûr que au moins une fois dans leur vie, par hasard dans la voiture ou en allant au supermarché, ils avaient entendu. Donc ça nous permettait d'avoir des repères et puis voilà, on était un peu obligé aussi.
Oui, parce que c'est un peu une musique subliminale, même si on interroge le kidam sur le trottoir dans la rue. Qu'est-ce que vous connaissez comme bluesman? Bon, je suis pas sûr de la réponse, mais si on fait écouter des choses, ouais, tout de suite ça parle aux gens quand même.
Voilà, donc on était obligé de faire des concessions et donc on était après c'est difficile parce qu'on était un peu empêtré là-dedans. On a voulu écrire aussi sans perdre notre style et puis au bout de 10 ans, on s'est dit bon ben c'est bon, on a fait le tour, il faut évoluer et comme par hasard Stéphane est arrivé.
Voilà. Mmh. Alors, il y a un des musiciens qui dit « Après une bonne dizaine d'années sur les routes, on a voulu faire du blues dans un style plus traditionnel, sans devenir puriste, car on n'aime pas ça. De toute façon, c'est presque impossible, puisque nous sommes européens et blancs de surcroît. » Tu partages son opinion, Bernard ?
Non, pas complètement. Ça, c'est Olivier, je me souviens.
Ouais, c'est Olivier, ouais.
Ouais, non, pas complètement. Bon, je pense que Olivier est assez modeste là dans ce qu'il dit. Après, ne pas dire qu'on... dire qu'on ne fait pas vraiment du blues parce que bon voilà.
Je sais pas s'il a voulu dire ça. En fait, pas vraiment faire du blues si vous en faites à 100%, mais devenir puriste. Voilà. De toute façon, voilà. Après, on peut se poser la question quelle est la véritable définition de puriste. Est-ce que c'est aller jusqu'à l'ayatollah du blues qui ne supporte pas que ça sorte des trois accords et des 12 mesures. Bon, c'est un autre débat. J'ai envie de dire, c'est pas le problème.
Tous les musiciens de blues que j'ai rencontrés. Donc pendant ces 20 ans, aussi bien des gens très 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 forts, très reconnus, des bluesmen américains, etc., ou des Français, etc. Tous les musiciens, ils ont tous une ouverture ailleurs.
Oui.
C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien écouter, comme Charlie Batty par exemple, Little Charlie Batty.
Ouais.
Bon, lui c'est un fan de
jazz manouche, je crois.
Jazz manouche.
Oui.
Voilà. Après, tous les gens que j'ai rencontrés quand on était chez Kid Anderson qu'on enregistrait, c'est un fan d'Hendrix, il y a un poster d'Hendrix. Hendrix c'est pas un bluesman pur et dur, c'est quelqu'un qui joue bien le blues, mais bon voilà. Et puis voilà, je pense que les puristes c'est plutôt les auditeurs, les collectionneurs, les gars.
Oui.
Qui
et les gens qui n'en jouent pas finalement peut-être.
Je crois, après il y en a quelques-uns hein, qui sont puristes, mais bon des fois ils sont un peu chiants ceux-là.
Ouais. Non, et puis voilà, tu parlais d'ouverture, c'est vrai. Après, bon, bah, c'est une question d'approche personnelle. Hein. Quelque part, il y a une musique qui vous fait vibrer et une autre qui ne vous fait pas vibrer. Tu prends Kid Anderson, moi, j'ai jamais entendu une seule note d'Hendrix dans son répertoire et ça m'étonne pourtant pas qu'il soit fan, quoi. Je veux dire, voilà, on a les influences qu'on a et puis on ne les ressort pas forcément dans sa musique. Je crois de toute façon qu'au niveau style personnel, parce que là maintenant avec Awake 20 ans d'existence, c'est également le cas, c'est une somme bien sûr d'influence, mais c'est également le travail personnel et puis le son personnel qui arrive au bout d'un moment quand même.
Oui, c'est un, chacun a travaillé son son, chacun a évolué, on le raconte dans le livre aussi.
Ouais.
On a acheté du matériel différent, bon c'est pas le matériel qui fait le son. Mais quand même, c'est une démarche. Bon, voilà, mais je sais qu'aujourd'hui, quand je prends ma première guitare, ma Telecaster sur laquelle je jouais au début d'Awake, j'ai pas le même son qu'avant.
Mmh.
Même si c'est le même instrument, on a tous fait cette démarche-là dans le groupe, de se dire, bon, voilà, on va aller quand même un peu plus à la source, on va jouer le blues avec un son à l'ancienne. Quoi.
Avec des instruments vintage.
Et aussi avec des instruments vintage. Mais pour aider. Mais c'est des fois l'instrument, c'est qu'une excuse pour voilà, parce qu'en fait c'est une démarche quoi. Et le son c'est la priorité dans un groupe.
Mmh.
Bon, je pense que la grande particularité d'Awake, après on est beaucoup moins originaux sur plein de choses, sur l'écriture et tout, ça il n'y a pas de problème. Mais notre originalité, c'est notre son. Je pense qu'on a un son qui est reconnaissable, qui est identifiable en tout cas.
Oui, tout à fait. Mais c'est ce que je voulais exprimer également. Et également, j'allais dire, un des groupes, parce qu'il y en a d'autres, où chaque musicien écoute les autres musiciens.
Ah ben ça, j'espère que tout le monde fait ça.
Non, hein, non, tout le monde ne fait pas ça, Bernard. Tout le monde ne fait pas ça, je crois pas. Non, non, mais bon, voilà, ça se voit et ça s'entend, j'ai envie de dire. Il y a du respect entre vous, il n'y a pas que de l'amitié, quoi.
Non, bien sûr, c'est... Ah, non, non, ben c'est surtout... De toute façon, nous, on n'était pas amis avant de jouer ensemble.
Ouais, hein. Ouais.
On se connaissait comme ça, parce qu'on savait qu'on était, on était dans la même sphère. En tout cas, on avait des fois des copains en commun, mais on s'est retrouvés, on a monté à WEC parce qu'on avait envie de faire cette musique-là avant tout. Mmh. Et après, bon, bah, les affinités ont fait que. Non, mais c'est en tout cas, on se met les uns et les autres au service d'eux. C'est-à-dire que je sais que, bon, bah, basse batterie, forcément, ils sont obligés d'être derrière nous. Mais en même temps, moi, quand j'écris une chanson, je pense à la ligne de basse de Joël, je me dis, tiens, il va s'éclater à jouer ça. Ou à la batterie d'Olivier,
ouais, ouais.
Où je dis, tiens, bah, ça, c'est un truc qui irait bien à Stéphane. Et eux, ils font pareil avec moi. Ils savent que, voilà, il faut jouer comme ça quand je chante, etc. Et c'est de l'écoute.
Ouais, ouais. On parlait de la discographie de Awek, vous en êtes à 8 albums, hein, c'est ça, Bernard?
Oui.
Si on accepte la cassette de démo qui était au tout début de la carrière. Dont
ah, tu la connais, celle-là? Ouais, d'accord.
Non, je ne la connais pas, celle-là. Non, non, justement. Mais s'il y en a des bandes, je suis preneur. Non, ce que je voulais dire, c'est que les trois derniers albums ont été enregistrés aux États-Unis, que ce soit au Texas, puis en Californie, hein, pour le tout dernier. Le prochain, parce que là, maintenant, ça y est, le précédent est sorti il y a combien, presque 2 ans maintenant.
Oui, il est sorti il y a plus de 2 ans même.
Ouais, donc le prochain, il est prévu également de l'enregistrer de l'autre côté de l'Atlantique.
On ne sait pas.
Ouais.
Bon, après, on n'est pas d'accord. Après, c'est vrai qu'on sait ce qu'on va... On a commencé... Enfin, moi, je m'arrête jamais d'écrire. Hein. Je me dis pas, tiens, faut que je me mette au boulot parce que je vais faire un disque. Donc, moi, j'aime bien écrire des chansons.
Donc, il y a du matériel à l'avance, forcément.
Voilà, après, moi, j'écris des chansons. Et puis, quand ça ne plaît pas, ouais, bon, bah, tant pis. D'ailleurs, j'ai des chansons à moi qui sont jouées par d'autres groupes, comme Shake Your Hips, par exemple.
D'accord.
Et qui seront peut-être enregistrés dans leur prochain disque, là, très bientôt.
Qui sont allés à Memphis aussi, Shake Your Hips. Hein.
Oui, bien sûr. Ouais. Et qui ont été aussi à l'European Blues Challenge.
Ouais.
Donc, je sais que, bon, voilà, moi je continue à écrire. Et là, bah, forcément, je pense qu'on est jamais resté aussi longtemps, dans un laps de temps aussi long, sans enregistrer de disque.
Mm-hmm.
Donc là, bon, c'est sûr, on va faire un disque. Après, on ne sait pas où, comment. Bon, moi, j'avais un petit peu peur de toujours dire, bon, ben, ah, bah, ouais, qu'il n'y a rien de surprenant, ils vont toujours aux États-Unis. Je pense qu'on peut faire un très très bon disque en France.
Oui.
Et y a plein de très bons groupes français qui font d'excellents groupes en France dans des studios français. Là-dessus.
Mais alors, dans les trois derniers albums, ça aurait été absolument impossible, j'imagine, d'avoir autant d'invités de ce calibre-là.
C'est
vous aviez enregistré à Paris, quoi, ou à Toulouse. Hein?
C'est tout l'intérêt d'enregistrer aux États-Unis. Bon, on l'a fait essentiellement pour ça,
ouais.
Parce que ben, les gars sont sur place. Ils sont dispo, voilà, ils sont chez eux. Et puis nous, ça nous fait un petit dépaysement, quoi. Donc on l'a fait 3 ans de suite. On ne sait pas. Peut-être que on le fera de l'autre côté de l'Atlantique encore, ou en Jamaïque, qui fait meilleur.
Si tu repenses à l'enregistrement du dernier Rich and Famous chez Keith Anderson, donc dans son appart, hein, c'est ça. Il y a des anecdotes qui fourmillent dans ton bouquin. Il y a un petit souvenir comme ça qui te revient à l'esprit à l'instant, Bernard?
Bah, non, à part ce que j'ai raconté un peu dans le livre, bon voilà, c'est-à-dire que quand moi je suis arrivé, parce que c'est loin quand même San José en Californie, hein, il faut prendre l'avion depuis Toulouse, aller à Amsterdam, traverser l'Atlantique, s'arrêter je sais pas où, reprendre l'avion je sais pas où, à Washington,
mm-hmm.
Et puis arriver à San Francisco, puis là louer une bagnole, et puis arriver, puis le lendemain quand tu te dis tiens j'ai fait tant de trajets, et puis tu arrives dans une maison, tu pousses la porte et c'est un salon en fait, mais bon il y a des guitares partout, hein, mais il y a un orgue et il y a un piano et puis voilà, puis il y a des amplis dans la salle de bain, dans la cuisine.
Mais c'est ce que tu dis dans le bouquin, tu dis en entrant chez Keith, je me suis dit on a fait tout ce voyage jusqu'en Californie pour enregistrer là-dedans.
Ouais, ouais. Bah, tu sais, avec le décalage horaire, avec bon voilà, avec un peu la fatigue et tout,
ouais.
De se dire est-ce qu'on n'a pas fait une bêtise là, parce que le studio précédent au Texas par contre c'était un gros studio,
un truc somptueux,
ouais. Wire Recording à Austin, c'était un vrai studio, tu poussais la porte, tu disais bon là je suis dans un vrai studio, il n'y a pas de problème,
ouais.
Quoi. Surtout que bon voilà, alors c'est pas par rapport aux gens, parce que chez chez Kid Andersen, il a eu des gens fabuleux qui sont venus enregistrer. Hein. Des gens que j'adore, des harmonicistes comme R.J. Michaud, comme plein de gens. Enfin, je veux dire, c'est Uri Kistrin est venu chez lui et tout. Mais bon, voilà, c'était un peu surprenant. Mais on s'est tellement marré avec lui parce que c'est un personnage, hein, Kid Andersen. Oui, hein. Oui. On l'a croisé dans la rue, en fait. Il n'était pas chez lui. En arrivant, il était sur un vélo, en short, et on a bien regardé. Mais c'est pas possible, c'est lui. Puis il nous a reconnus, nous a fait signer. Et voilà, on a fait connaissance comme ça. Et puis on s'est bien marré. Franchement, on s'est vraiment marré.
Et c'est Marc Hummel qui supervisait les sessions. C'est lui qui a coproduit l'album, en fait.
C'est Marc Hummel que j'ai contacté pour faire l'album parce que j'aime beaucoup le son de Marc. Je sais que c'est un producteur, il a produit, il a aidé plein de gens, donc je savais qu'il avait les capacités d'eux. Et puis j'aime sa musique. Et donc je l'ai contacté, et puis quand il a vu ce qu'on avait fait précédemment, Austin et tout, il s'est dit, bon, ces gars-là, ça va, ils ont joué avec des bons. Ouais. Et puis il a écouté le disque, il a dit, bon, ben d'accord, banco, c'est parti. Et puis là, il a tout organisé à merveille. Et tout ça avec le sourire, parce que Marc, c'est un pro, mais c'est quelqu'un qui est très cool. Oui. De toute façon, les Californiens, ils sont cool. Hein. Il n'y a pas de stress là-bas. C'est vraiment bien.
Il n'y a pas de stress et il n'y a pas de strass, j'ai l'impression. Ça se passe naturellement, les rencontres, à l'américaine, j'ai envie de dire, c'est très banal, mais on arrive très vite à se livrer, à être potes, presque, dès le départ, non?
Ah ben, tout le monde est très très simple, hein, de toute façon. Et puis, ce qui est bien, c'est que la musique, c'est tous les jours. C'est pas... un peu comme en France où c'est toujours quelque chose d'exceptionnel, même quand on joue beaucoup comme nous. Là-bas, ils jouent tous les jours. En Californie, moi, j'étais sur scène quasiment tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, il y avait quelqu'un qui m'invitait, ou on allait faire le jam, ou on a accompagné Marc aussi, parce qu'il n'avait pas de batteur ce jour-là, et puis il m'a dit, bah, t'as qu'à venir aussi. Donc, on a accompagné Marc Hummel sur un concert. On allait voir des gens, les gens savaient qu'on était par là, ils nous invitaient, on les faisait jammer. Laura Chavez, par exemple, qui la guitariste qui joue avec Candy Kane. Bon, ben, elle a vu qu'on jouait dans un club à côté de chez elle. Ouais. Elle a regardé qui on était, elle s'est pointée. Et le soir, elle faisait des morceaux avec nous. Puis on a terminé à 3h du matin avec elle à avoir des whisky et de la bière dans les bars de San José. Mais voilà, bon, voilà, là-bas, c'est beaucoup plus, c'est plus naturel.
Ça fait partie du décor. J'ai envie de dire, c'est vrai qu'en France, quand tu fais un concert, tu arrives ces jours de fête, il y a des banderoles, tu sens bien que c'est exceptionnel, quoi. C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. D'habitude, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Boîte de nuit, c'est barbecue, enfin.
Ouais, ben parce que ça fait pas le blues, ça fait pas partie de la culture française.
Et voilà.
Ouais. Donc, on voit bien qu'il y a une communauté blues en France où on se régale bien, on s'entend bien. Mais ça reste, parfois, ça reste un petit peu confidentiel.
Bah, j'ai envie de dire, en dehors des festivals et puis de quelques endroits bien ciblés, après, voilà, on se sent un petit peu seul, c'est un petit peu la traversée du désert. Heureusement, quand tu parlais du réseau Internet, heureusement qu'on se connaît un peu tous, là, et qu'on peut se serrer les coudes autour de cette musique si fabuleuse. Bernard, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces anecdotes et puis la présentation du livre 20 ans de blues à WEC, livre avec un DVD. J'ai une question là sur Facebook de l'ami Michel Masson qui voudrait savoir, il est à quel prix le livre, parce que j'ai l'impression qu'elle doit avoir déjà tous les CD d'AWEC. Le bouquin, vous le vendez combien?
Alors là, cet été, on l'a vendu 25, mais là, on a décidé de le descendre à 20. Ouais. Parce qu'on sait que c'est la crise pour tout le monde et que, bon, voilà, puis qu'on en a vendu pas mal. Donc, on fait ça, en fait, plus pour faire plaisir, on va dire, à nos fans, aux gens qu'on aime autour de nous. Donc, maintenant, on l'a un peu remboursé, donc on va baisser un peu le prix.
D'accord.
Et puis, voilà. Donc, je voulais juste ajouter qu'en fait, on va vraiment fêter notre anniversaire sur scène, quand même.
Oui.
À Toulouse, parce que, bon, on est de Toulouse, donc... Mais dans une très, très belle salle, qui est une nouvelle salle à Toulouse, qui s'appelle le Métronome. Et ça sera le samedi 20 décembre.
D'accord.
D'ores et déjà, je peux vous dire qu'il y aura plein d'invités. Donc, officiellement, il y a Nico Duportal qui sera là, Thibaut Chopin.
Nico, qu'on salue bien bas ici, qui vient d'être papa à nouveau, dire.
Qui vient d'être papa, ouais. Joshua. Le petit Joshua là aussi qu'on salue aussi, et puis bon voilà, après il y aura Nicolas Cassagno certainement de Flying the Talks qui sera là aussi, Youssef Remanna, bon c'est pas encore confirmé mais on n'est pas loin d'avoir son accord, plein de gens, voilà, il y aura un gros gâteau et puis on ouvrira la bouteille de cognac qu'on a gagné,
la fameuse cognac. Oui, le prix cognac Blues Passion, vous n'y aviez pas touché?
Non, on s'est dit qu'il faut attendre un événement, donc je pense que c'est le bon moment.
Ouais, carrément, carrément. Au Métronome, le 20 décembre, ça sera à Toulouse. La Toulouse Blues Society, ça fonctionne toujours, Bernard ?
Bah, elle sera partenaire de la soirée, forcément. Oui. Et ça fonctionne toujours bien, oui. On a fait deux concerts sympas là, avec Big Dez, George et Julie, entre autres. Gladys Amoros aussi, et Jacques Grillet. Donc c'était fin août. Nous, on était sur la route, mais ça s'est bien passé, il y avait du monde. Et puis voilà, on essaie de toujours de faire vivre le blues dans la ville rose. C'est pas toujours facile, mais en tout cas, voilà, on s'y attache, on s'y attelle. Et puis il y a des résultats. Donc on continue.
Eh ben oui, écoute, peut-être que, je sais pas, dans 20 ans, si je fais toujours de la radio, on pourra fêter les 40 ans d'existence de Awake. On rappelle l'adresse, si vous voulez tous les détails sur le groupe Awake, www.awakeblues.com, c'est ça, hein, site officiel. Et puis le livre et le DVD du 20e anniversaire qui est sorti il y a deux mois et puis qui va être disponible sur le site, et ainsi que bien sûr toutes les dates de concert du groupe. Vous allez bientôt rejoindre l'ami Francis à l'île d'Abo, je crois.
Oui, on fait une spéciale justement anniversaire où il y aura les Mountain Men justement qui seront invités, mais aussi Jacques Bon et Yannick Dorel, guitariste chanteur.
Extraordinaire. Alors tout ça au Blues Café de Francis et Cédric, hein.
Voilà, donc là c'est le 11 septembre, ouais. Bon, date hautement symbolique.
Oh oui, putain, mais, oui, c'est, ouais, d'accord.
Ouais. Mais en tout cas, bon, voilà, donc on y sera pour une émission un peu spéciale, oui, pour nos 20 ans, on va dire, nos 20 ans radiophoniques, voilà, avec Francis et Cédric.
Voilà, et puis donc le 11 à l'île d'Abo, le 12 à Saint-Étienne, le 13 à Marseille, le 19 à Sens, le 20 à Bourges, et puis le 21 à Beaumont-en-Vernon. Voilà les dates de septembre. Ouais. Ah ouais, qui continue droit sur ses rails, et puis qui prépare son 9e album, là, maintenant, pour 2015.
En fait. Oui, là, ouais. Là les morceaux sont écrits, maintenant, il n'y a plus qu'à à bien se mettre dedans, et puis à trouver le bon endroit et le bon concept, mais okay. C'est parti. Là, maintenant, on ne regarde plus vers le passé, on regarde vers l'avenir.
Super. Voilà, coup de projecteur sur le 20e anniversaire d'existence du groupe Awake avec Bernard Selam. Bernard, merci beaucoup. On va continuer à écouter des extraits de la discographie d'Awake. On a écouté tout à l'heure Rich and Famous, It's Rolling, Burning Wire and South Lamar. On vient en arrière également avec le premier album, je crois, que tu partages avec Stéphane Bertolino. C'était Just Pick Up the Pieces en 2005, ouais, c'est ça ?
Tout à fait, voilà. C'était le premier album avec Stéphane.
Ouais.
Voilà.
On va écouter ça. On va revenir sur Messing with the Blues et puis également sur Barbershop et puis toute la partie des années 90. Ben, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est passé à la trappe chez moi. Ou alors, voilà. en tout
Elles
cas.
Sont morts, peut-être.
je ne sais pas. On va revenir sur ces six albums, les six des huit que Awake ont sorti depuis 1994. Merci Bernard. À très bientôt sur
Merci
la route du blues.
Et un grand bonjour à tous les auditeurs, voilà, de cette superbe émission qui est là et qui fait vivre le blues.
Merci à toi.
Le blues à tous.
C'est cool. Merci à toi. Merci, à très bientôt. Extrait de Just Pick Up the Pieces, donc. The Girl I Found. Like I